Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph et la semaine aussi de Joseph. Mais aujourd'hui, c'est à la fois Joseph et Judas. Donc, on va parler de deux hommes et de deux femmes. On va parler de Judas et sa belle-fille Tamar dans Genèse chapitre 38. Et on va parler de Joseph et la femme de Potiphar dans Genèse chapitre 39. Et 40. Et évidemment, c'est beaucoup de textes, donc je vais résumer et sauter un petit peu, et ça c'est surtout pour que le message ne soit pas trop long. Donc beaucoup de messages aujourd'hui sera en fait la lecture du texte avec les commentaires ici et là. Donc, globalement, le sujet que nous abordons sont le sujet de la moralité et de l'immoralité. Pourquoi? Parce que Dieu est un être moral. Et nous appelons cet attribut la sainteté. Okay? Dieu est saint. Donc, je vais vous lire quelques versets. Vous n'allez pas pouvoir me suivre dans la Bible parce que je vais sauter. C'est simplement à suivre avec vos oreilles. Vous pouvez essayer dans Genèse 38, 39 et 40, mais vraiment, je saute beaucoup. Donc, vous n'allez pas pouvoir vraiment me suivre. Je vais lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, donc on a chanté tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu par l'adoption grâce à l'évangile de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, donc autrefois, avant de croire en Jésus-Christ, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, donc Dieu est un être morale, une personne morale, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc la Bible nous dit, vous serez saints car, dit Dieu, je suis saint. Donc c'est ça que Dieu attend de nous, qu'on soit saints. Aussi, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 18. C'est un des versets toute courte dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 18, fuyez l'impudicité. Donc le mot impudicité, ça veut dire l'immoralité sexuelle. Aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 8, 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 8, ne vous livrez pas à l'impudicité. Aussi, nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je pense que c'est le verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je crois que c'est le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, sanctification, ça se relie avec le mot saint ou sainteté de Dieu. Ce que Dieu veut dans notre vie pratique de tous les jours, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est encore c'est l'immoralité sexuelle. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, je vais lire versets 1, 2 et 9, me semble. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, donc il y avait des problèmes dans l'église et on a écrit à Paul, qu'est-ce qu'on doit faire à ce sujet-là? Il y a beaucoup, ils ont dit, d'immoralité chez nous. Comment régler ce problème? Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. C'est-à-dire qu'on n'est pas marié, il ne faut pas toucher les jeunes filles ou les autres filles, il ne faut pas toucher. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, donc l'immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et puis je saute au verset 9. Si les gens manquent de continence, donc s'ils sont, ils ont besoin de relations sexuelles, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, la réponse de la Bible pour les questions d'immoralité, c'est que les relations sexuelles doivent s'exercer dans le milieu du mariage. L'enseignement du Nouveau Testament est net sur ces questions de moralité et de l'immoralité. Le chrétien doit être saint dans toute sa conduite. Il doit fuir l'immoralité. Donc, je vais commencer en parlant de Judas. Donc, Judas est un ancêtre véritable, c'est dans la lignée de notre Seigneur Jésus, donc le Christ. Alors, l'histoire de Judas, qui a vécu aux alentours de 1800 ans avant Jésus-Christ, son histoire est perverse. Okay? Il se marie, il a des enfants, il désire avoir des petits-enfants, mais ses propres enfants sont maléfiques et Dieu les a tués. OK, donc on va lire dans Genèse chapitre 38. Et comme j'ai dit, je saute, je résume. Donc il y a un flou un peu, mais globalement, on lit ceci. Verset 1. Genèse 38, verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et enfanta trois fils, Ur, Onan et Shéla. Verset 6, Judas prit pour Ur une femme nommée Tamar. Ur était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel fit mourir. Alors, d'après les coutumes, Judas dit à son cadet Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Verset 9, « Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. » Alors, de cette récite-là, l'Église catholique a appliqué, l'Église catholique a appliqué ces versets à la pratique de se masturber. Donc, je ne sais pas si je prononce correctement. Donc, ils ont donné le nom de onanisme. En réalité, ici, Onan ne se masturbait pas. Il avait des intentions maléfiques de ne pas vouloir accomplir la volonté de Dieu pour la survie de la lignée de Judas via Tamar. Donc de Tamar qui devait bien plus tard naître le Christ. Donc pour ne pas honorer la volonté de Dieu, Onan s'est retiré pour que Tamar reste son enfant. Il a été tué par Dieu pour sa méchanceté. Dans le texte biblique dit bien que ce qu'il a fait déplut à l'Éternel et pour cela il a fait mourir. Aucun verset biblique ne condamne ni même aborde la pratique de se masturber. Ces versets-là ne sont pas non plus une condamnation des pratiques de contraception. Il y a bien sûr, une grande différence entre la contraception, c'est-à-dire empêcher la conception d'un être vivant, et l'avortement, c'est-à-dire de tuer un être vivant déjà existant. Donc, deux choses bien différentes. En attendant que le troisième fils de Judas a l'âge de se marier, Tamar habite dans la maison de son père. Mais Tamar voyait que Shéla était devenue grande et elle ne lui était point donnée pour femme. Puis la femme de Judas mourut. Je suis au verset 13. On en informa Tamar que son beau-père passait par là, donc elle s'est déguisée sur le chemin de Timna et Judas l'a pris pour une prostituée. parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda, il la aborda sur le chemin et dit, laisse-moi venir, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. De cette union illicite, immorale, sont nés Péré et Zéra. Okay? Donc on a les deux, Judas et Tamar, tous les deux qui ont agi injustement, qui ont agi en commettant tous les deux l'immoralité. Alors donc, toute relation sexuelle hors mariage est péché, même si la société l'approuve, accepte. Hein? Donc union libre, concubinage, pax, prostitution, tout ceci est appelé immoralité. Et l'immoralité, comme j'ai déjà dit, est un manque de respect pour la sainteté de Dieu. Donc on voit quatre choses par ces histoires. Premièrement, les hommes se laissent facilement entraîner dans les péchés sexuels. Donc attention à vous, messieurs. Notez bien que derrière la pornographie et la prostitution, il y a souvent les femmes et les enfants souffrant dans l'esclavage et la violence qui les oblige à se soumettre. Ce n'est pas d'office, de bonne volonté qu'on est dans ces situations-là. Donc gardez-vous loin de tout cela. Une autre chose on voit, c'est que certaines femmes feront n'importe quoi pour avoir un enfant. Hein, quand vous lisez dans les nouvelles, il y en a qui tuent d'autres dames, il y a qui kidnappent, hein, qui enlèvent l'enfant de notre. Donc là, c'est commettre l'immoralité pour avoir un enfant. Si Dieu ne veut pas vous donner un enfant, vous devez vous fier plutôt à Dieu que de dire « à tout prix, il me faut un enfant ». Ok? On voit aussi, parce que plus tard, donc un enfant, un descendant de Tamar et de son fils Péré sera Jésus. Hein? Donc on voit bien que les enfants ne sont pas responsables pour les péchés de leurs parents. Mais quand même il y a un bémol, c'est que souvent les enfants peuvent subir les conséquences des péchés des parents. Hein? Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans les déformations, vous savez, quand on prend des drogues et tout ça, et puis on est enceinte, etc. Ça peut avoir des conséquences. Bien sûr, il y a une culture familiale qui sera promulguée à travers les générations. Donc, quelque part, les enfants vont subir certaines choses, mais ils ne sont pas responsables des péchés de leurs parents. Ils seront responsables pour leurs propres péchés. Et puis, on voit aussi que Dieu peut faire ressortir le bien en dépit du mal. Et ici, on voit bien que Péré, donc l'enfant de cette union illicite, sera un des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel contraste avec Joseph. Joseph, il est le héros de sa famille. En quelque sorte, Joseph est une image de Christ. Donc on a Judas qui représente le péché et en nul cas représente une image de notre Seigneur Jésus. Et on a Joseph qui, lui, n'est pas dans la lignée pour qu'il soit un ancêtre de Jésus, mais il est dans la famille de Jacob. Et il est, comme j'ai dit, un genre d'image du Seigneur Jésus. Il a beaucoup souffert injustement et tout ceci selon le plan de Dieu pour sauver son peuple. Hein, parce que Jésus va venir aussi pour sauver le peuple, n'est-ce pas? Donc on a un petit parallèle entre ces images-là. Joseph, c'est un des peu de monde dans la Bible que la Bible ne raconte pas un péché à son sujet. Okay? C'est pas pour dire que Joseph était sans péché, mais la Bible ne dit pas que voilà, on critique Joseph parce qu'il a commis tel ou tel acte. Genèse chapitre 39. Joseph est vendu en esclavage par la méchanceté de ses frères. Je résume. Hein? Il est acheté par Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Or, Joseph était beau de taille et belle, beau de figure, et il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi !» Il refusa, ça c'est verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, donc tu es la femme de mon maître, « Comment pourrais-je, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Puis, un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, verset 12, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit au dehors. C'est une longue histoire avec Joseph. Hein? Donc, on voit bien quand le Nouveau Testament nous dit « fouillez l'immoralité » que le grand exemple et modèle dans la Bible, c'est Joseph. Hein? Il a pris la fuite devant l'immoralité. L'immoralité est un péché et elle se présente de maintes façons. Donc, on a la télévision, on a le téléphone, on a tout ce qui est informatique. Ce sont les accès le plus facile à l'immoralité. Puis, il y a la littérature pornographique, il y a les prostituées. Et il faut savoir, parce que vous avez certainement rencontré de telles personnes, il y a des prédateurs qui sollicitent hein, que vous venez avec eux, comme la dame solliciter Joseph, pas une fois, mais tous les jours. Et c'était la femme du maître. Donc, c'était très difficile. Hein? Éloignez-vous de telles personnes. Il ne faut pas rester dans leur entourage. Quand une personne est maléfique, il faut partir. Peut-être quitter votre travail, prendre un autre travail. Il ne faut pas vous laisser influencer et subir les choses. Joseph n'était pas dans ce cas-là, il était esclave. Il ne pouvait pas partir. La Bible ne prétend pas que tout le monde soit comme Judas ou la femme de Potiphar. Hein, ce n'est pas tout le monde qui est après le sexe à tout prix, n'est-ce pas? Néanmoins, suffisamment de monde sont comme eux. Il y a plusieurs proverbes qui nous mettent en garde contre les séducteurs. Il faut vous éloigner de telles personnes. Il faut prendre vos dispositions d'avance, si possible, et ne pas vous laisser prendre dans le piège. Il faut savoir, bien sûr, que Dieu peut pardonner. Hein? Dieu peut vous pardonner si vous avez commis une immoralité. Mais les cicatrices peuvent être profondes. Et faites bien attention, car même si Dieu pardonne nos péchés, les conjoints n'arrivent pas souvent à le faire. Hein? Je ne sais pas quel est le pourcentage des divorces en France. Mais souvent, les divorces, c'est à cause de l'immoralité. Okay? Verset 13. Donc, elle, c'est la femme de Potiphar. Lorsqu'elle vit que Joseph, lui, avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, mon mari nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi. » Pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là, en prison. L'Éternel était avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il lui mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sur sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc, dans cette histoire, nous voyons donc un mélange de mal, de mensonge, de convoitise, d'injustice. Joseph est victime, et victime, et victime. À maintes reprises, Joseph est victime. Il est sans pouvoir, il est sans assistant social, il est sans avocat. Pourtant, Dieu veille sur lui. Dieu le protège et le bénit. Sachez donc que si votre vie est difficile, vous pouvez compter sur Dieu. Il veille sur vous autant qu'il veillait sur Joseph. Attention quand même. Dieu agit au long terme. N'attendez pas à des réponses ou des solutions instantanées. On est bien dans la génération du micro-ondes, donc vous devez manger tout de suite. Eh bien, combien des années Joseph était esclave, n'est-ce pas? Chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent le maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, verset 3, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ils ont eu des rêves que Dieu a fait interpréter par Joseph. Ces interprétations se réalisèrent, mais ces gens oublient Joseph. Bien plus tard, à peu près 2 ans, le pharaon a des rêves et à travers les chansons, le pharaon fait venir Joseph qui, par la volonté de Dieu, interprète ses rêves. Dieu avertissait le pharaon d'une très grande, très sévère famine qui allait arriver. Le pharaon a établi Joseph comme administrateur du pays et lui a donné une femme. La famine est bien arrivée, et la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et, c'est verset 57, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays, les pays. Ainsi, le pharaon établit Joseph comme sous-chef de toute l'Égypte, et de par là, Dieu prévoit que l'Égypte va accueillir toute la famille de Jacob. Donc, on voit ici, dans cette histoire, on voit un exemple de la vérité qui est dans Romains chapitre 8 et verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais répéter. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan. Dieu avait un plan. Dieu a un plan. Dieu travaille d'après son plan. Que nous soyons au courant ou pas, Dieu agit et il agit selon son plan. Et nous, nous entrons dans son plan. Tout à travers de sa vie, on n'a pas vu toutes les choses parce que c'est trop long cette histoire, mais à travers sa vie, Dieu préparait Joseph pour devenir l'homme qu'il devait être, c'est-à-dire le protecteur de la famille de Jacob. C'était ça le plan de Dieu pour Joseph. Le diable, par contre, a mis sur sa route cette femme adultère pour détruire Joseph afin de détraquer le plan de Dieu. Mais Joseph a mis Dieu en premier, bien au-delà de ses propres besoins et ses propres désirs personnels. Joseph ne s'apitoyait pas sur son sort, il ne se plaignait pas des nombreuses injustices. Non, il voulait plaire à Dieu. Même si cela voulait dire qu'il restait esclave pour toute sa vie, ce qui est le cas. Donc, la pensée que je voudrais vous laisser après ces deux histoires-là, bon, ça c'était tout à propos d'un côté de l'immoralité, mais de l'autre côté, la fuite devant l'immoralité. C'est ça que Dieu veut de nous, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 6, nous lisons « Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. » Alors Joseph avait besoin d'une femme, n'est-ce pas? Et Pharaon, lui, a donné une femme, bien qu'il était esclave. Donc Dieu a pourvu quand même pour ses besoins. Donc Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais mettez ça dans le contexte de Joseph. Cette belle dame, la femme de Potiphar, se présente, que voilà, tout ce qu'on pourrait vouloir vient, c'est pourquoi pas. Eh non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes les autres choses, tous nos besoins, vous seront donnés par-dessous. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit. Il ne dit pas ses joies. Hein? Jésus n'a pas dit ça. À chaque jour suffit ses joies. Non, il a dit quoi? À chaque jour suffit sa peine. Il y a des difficultés dans la vie. On le sait. Et Dieu le sait. Mais il est avec nous pour nous accompagner. Nous devons être en compagnie, en collaboration avec notre Dieu. Il faut, comme il est dit, que toute notre conduite, hein, conduite, on va vers notre sanctification. Il veut qu'on soit saint comme lui est saint. D'accord? Donc, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager. Même si vous êtes dans des situations des fois difficiles, il faut compter sur Dieu, que Dieu, à la fin, va faire accomplir son plan et que vous entrez dans son plan.